voix nue. Toute cette semaine, François Siri rencontre François Cheng. Ce soir, la beauté, le mal, la mort.
François Cheng, bonjour.
Bonjour.
Nous nous revoyons aujourd'hui pour continuer avec vous cet éclairage sur votre vie et votre œuvre. Précédemment, nous avons parlé de l'importance de la méditation dans votre vie et bien sûr de l'importance des rencontres. Et justement, dans cette optique, vous aviez réfléchi à des sujets qui vous habitent, qui sont la beauté d'une part et la présence de la mort d'autre part. Vous y avez réfléchi en public, en collégialité, pendant plusieurs années. Et vous avez écrit toutes ces réflexions dans deux livres, 5 méditations sur la beauté, qui ont été publiées chez Albin Michel en 2006, et 5 méditations sur la mort, publiées tout récemment en 2013. Il y a donc ces deux grands thèmes qui sont très très présents dans votre œuvre, et aussi la volonté que vous avez en tant que poète et écrivain de prendre en charge le mal dont les humains sont absolument capables. Est-ce qu'on peut en dire plus aujourd'hui sur ces grands thèmes ?
Oui. On ne peut pas correctement réfléchir à la présence de la beauté et à celle de la mort sans tenir compte de l'existence du mal. Je parle du mal d'origine humaine, du mal commis par les hommes. On sait que l'homme doué d'intelligence et de liberté, quand il est poussé par le désir de possession ou de domination, et qu'il opte pour le mal, est capable de tous les crimes possibles et de tout pervertir. Prenons l'exemple de la beauté. La beauté en soi est bonne. Le beau est un bien, mais il peut être facilement utilisé comme un instrument de tromperie, de domination, voire de destruction. Donc, quand on réfléchit sur la beauté, il faut avant tout distinguer l'essence de la beauté et l'usage qu'on peut en faire. Sinon, on est dans la confusion.
Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous, l'essence de la beauté ?
Ah, la beauté est un des plus grands mystères. Parce que l'univers n'est pas obligé d'être beau. On peut imaginer un univers uniquement fonctionnel, comme ça, qui se meut comme une morne mécanique. Or, il est beau, avec la splendeur du ciel étoilé et la magnificence de la nature.
Vous parlez souvent dans votre œuvre de la beauté minérale, de la beauté de la pierre, du rocher ou de l'arbre. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, ces beautés de la nature ?
Oui, ça c'est peut-être un peu spécifiquement chinoise, hein. C'est-à-dire cet amour de la pierre et de l'arbre, chez moi, vient d'une vieille tradition artistique chinoise. Vous savez, les peintres chinois commencent leur apprentissage en dessinant ces deux entités. Elles sont un peu les équivalentes du corps humain pour un peintre occidental. Parce que les pierres offrent des formes d'une variété extrême, austères ou placides, tourmentées ou apaisantes. Bien sûr, je parle uniquement d'un point de vue formel, hein, oui. Les arbres, eux aussi, sont variés, d'une variété extrême aussi. Et puis, les arbres opèrent des métamorphoses selon les saisons. Mais outre cet aspect formel, il faut signaler aussi leur qualité d'être. parce qu'à leur manière, la pierre et l'arbre incarnent des vérités essentielles. Selon l'imaginaire chinois, la pierre, cette matière incorruptible, est un témoin de l'origine. C'est-à-dire que l'origine, elle était là. Donc, en elle, circule encore le souffle originel. C'est pourquoi les Chinois aiment avoir la présence d'un rocher dans leur demeure ou dans leur jardin qu'ils perçoivent comme un compagnon vivant en qui ils puissent les vertus de pureté et de humilité, de constance et de persévérance. Il en va de même pour l'arbre. Hein. Dans la nature vivante, l'arbre est le seul être, comme l'homme, qui se tient debout et qui se dresse vers le haut. Alors que tous les animaux rampent sur la terre. Et puis les fleurs et les feuilles, n'est-ce pas, ont tendance à retomber vers la terre. L'arbre, c'est le seul être, je le répète, hein, qui est à l'image de l'homme et se tient debout comme cela, en se dressant vers le haut. Et donc, il est une présence constante et durable pour l'homme. Hein, et d'autant plus que un arbre se renouvelle sans cesse. Donc, il est le symbole, il se dresse, enfin, comment dire, il s'épanouit. Enfin, disons qu'il pousse toujours vers l'épanouissement total de sa présence au monde. Comme en ce moment même, cette année, les arbres, les frondaisons sont d'une plénitude extraordinaire à cause des pluies qu'on a reçues beaucoup durant l'hiver. Et donc, l'arbre est le symbole même d'une beauté épanouissante.
Oui, on voit à quel point le mot beauté, dans votre réflexion, qualifie aussi la qualité de l'être, son épanouissement. C'est beaucoup plus que la beauté seulement esthétique. C'est vraiment une présence au monde qui est qualifiée de belle.
Tout à fait, tout à fait. Justement, pour ce qui est des humains maintenant, par-delà la beauté des corps, il y a encore une autre beauté d'ordre spirituel qu'on peut qualifier de beauté de l'âme. Donc, en raison de toutes ces beautés, l'univers vivant semble receler une intentionnalité chargée de sens, comme s'il voulait nous proclamer « Voyez comme la création est magnifique et comme la vie vaut la peine d'être vécue. »
François Cheng, est-ce que vous voulez dire par là que la beauté procure du sens ?
Pour moi, oui, cela au plein sens du mot « sens », c'est-à-dire sensation, direction, signification. C'est extraordinaire qu'en français, ces trois sens se sont cristallisés en un seul mot monosyllabique, sens. Sensation. La beauté s'éprouve d'abord par la sensation. Direction. Attiré par la beauté, on se dirige d'instinct en sa direction. Signification. Quand on se dirige vers une direction, la vie n'est plus une existence absurde, insignifiante, sans but. Elle entre dans la signification, c'est-à-dire elle fait signe au monde et à la transcendance. De fait, c'est la beauté qui nous apprend à aimer.
C'est une phrase magnifique, la beauté nous apprend à aimer. Et aussi, l'amour rend beau. Quand on est amoureux, on voit la personne comme extrêmement belle. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord?
Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
Alors, la beauté semble rare. On a parfois l'impression que c'est la laideur qui règne, non?
Oui, la laideur règne partout. À cause de divers maux à l'œuvre, y compris la violence extrême, notre société et notre environnement sont rongés par la laideur. Toutefois, il faut apprendre à percevoir la beauté cachée, hein, à côté des grandes beautés qu'on peut trouver dans les paysages ou les œuvres d'art. La beauté continue à s'incarner, même dans la vie courante. Un visage rencontré, un sourire échangé, quelques fleurs anonymes poussant dans un recoin du trottoir, un rayon du couchant illuminant un vieux mur. Tenez, je pense ici à une scène qui relève d'un autre type de beauté, celle qui vient du cœur. Il n'y a pas longtemps, je marchais dans la rue, j'ai vu un peu plus loin une vieille dame qui s'était affaissée. Et les gens l'ont aidée à se relever et à s'asseoir sur un banc. Quand je me suis approché, je l'ai entendu dire « Non, 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 ce n'est rien, ça ira, pas à l'hôpital, surtout pas à l'hôpital. » Alors quelqu'un lui dit « Reposez-vous ici un peu en attendant. » Et elle de murmurer « Oui, oui, j'ai tout mon temps, personne ne m'attend, personne ne m'attend. » Cet aveu de solitude à voix basse, a touché tout d'un coup plusieurs d'entre nous, dont moi-même. J'ai pensé à mes êtres chers que j'ai dû laisser seuls, à ma mère. Avec une autre personne, je suis resté auprès de la vieille dame et nous l'avons accompagnée jusqu'à chez elle. Vous me direz qu'il s'agit là de compassion. Pour moi, une compassion qui crée un état de communion est le propre de la beauté de l'âme.
Et est-ce que la beauté est fugitive?
La beauté est toujours un apparaître dans l'instant. C'est son mode d'être. Plus notre expérience de la beauté est intense, plus aiguë est notre conscience de la mort. Alors, c'est pourquoi l'idée de la beauté est souvent liée à celle de la mort.
Alors ça m'amène justement à vous, François Cheng, à vous interroger sur la mort et à livrer le fruit de vos réflexions sur ce sujet. Vous avez dans vos 5 méditations... Sur la mort, vous nous avez appris à inverser la perspective de pensée habituelle. Selon vous, au lieu de dévisager la mort de ce côté-ci de la vie, c'est-à-dire comme ce qui va nous freiner, nous limiter, on devrait au contraire penser d'abord à la mort et justement s'en servir pour envisager la vie avec de l'élan et beaucoup plus de désir. Est-ce que c'est ça ?
Oui.
La mort nous fait peur dans nos sociétés occidentales.
Oui, oui, oui. L'idée de la mort, bien sûr, nous fait peur. Hein, et nous cherchons par tous les moyens à la bannir de notre horizon. Pourtant, paradoxalement, c'est elle qui confère sens et valeur à la vie. Je m'explique. C'est cette conscience de la mort qui transforme chaque vie en destin singulier et ainsi fait saisir la vie comme un don unique. C'est ce qui fait que notre vie se révèle un devenir fait de continuels dépassements et de besoins de transcendance. Simone Weil, la,
philosophe.
Oui, la grande philosophe, a dit que sans la souffrance et la mort, nous n'aurons jamais pensé à Dieu. On vivrait comme un pauvre ou comme un chien en tirant à la longueur. Hein. C'est la mort, enfin, qui nous pousse à nous réaliser afin de donner un sens à notre existence. Donc, en fait, toutes nos passions sont suscitées par la conscience de la mort. Passion d'engagement, passion d'héroïsme, passion d'amour, passion mystique. Donc, si la mort détermine la condition précaire et tragique de notre existence, elle est en même temps au plus intime de notre être le moteur dynamique qui nous oblige à vivre plus intensément. Par conséquent, au lieu de nous accrocher seulement à ce côté de la vie et de dévisager la mort comme un épouvantail, comme une fin absurde, nous devrions intégrer la mort dans notre vision globale et envisager la vie à la lumière de notre mort, conçue non pas comme une fin absurde, mais comme le fruit de notre expérience de vie.
De toute notre expérience.
C'est ça. Une expérience où se combinent la souffrance et la joie. Hein. Et le fruit, comme tout fruit tombé à terre, signifie à la fois une forme d'accomplissement et une possibilité de renaître autrement. En chinois, le mot fruit, guozi, veut dire une enveloppe contenant essence et graines.
Alors le fruit de notre vie, selon vous, peut renaître autrement, François Cheng?
Là, pour répondre à cette question, il faudrait élargir notre vision. Nous venons de voir que la mort est un processus nécessaire pour que la vie soit en devenir, pour qu'elle puisse se renouveler, se dépasser. La mort, apparemment, est un absolu, puisque tout le monde doit mourir. Mais l'absolu de la mort est soumis à un autre absolu, celui de la vie, car sans la vie, il n'y aurait pas de mort. C'est la vie qui a fait de la mort une de ses lois. Donc la primauté absolue appartient à la vie, laquelle est une immense aventure qui n'aura de cesse de tenir sa promesse depuis l'origine. Cette immense aventure est toujours en devenir, selon la loi de la transformation à multiples dimensions. À multiples dimensions parce que le développement de la vie ne se réduit pas à un seul ordre unidimensionnel comme ça. Il comporte plusieurs ordres qui se structurent et s'élèvent vers le haut. C'est ainsi que le taoïsme affirme « L'homme procède de la terre, la terre procède du ciel, le ciel procède du temps et le temps de lui-même. » C'est ainsi que, du côté de la tradition judéo-chrétienne, Pascal a distingué trois ordres, celui du corps, celui de l'esprit et celui du divin. Quand je parle de renaître autrement, cela signifie la possibilité non pas de répéter indéfiniment le même type de vie, m'est accédé à un autre ordre d'être. Dans cette optique, la mort se révèle alors une ouverture, une chance de métamorphose ou de transfiguration. Et l'homme, parmi tous les animaux, est appelé à prendre part à cette possibilité de métamorphose et de transfiguration.
Mais François Schenk, n'est-ce pas accorder trop d'importance à l'homme qui est capable de tant de mal ?
Oui. Je n'oublie pas que l'humanité est rongée par le mal. Mais d'un autre côté, je pense comme Pascal que l'homme passe infiniment l'homme. Au sein de l'aventure de la vie, l'homme est le seul animal encore en devenir. Il est le seul animal appelé à se dépasser. Il l'est parce que l'être humain est composé d'un corps, d'un esprit et d'une âme, ce qui lui permet justement de participer aux trois ordres de Pascal dont je viens de parler.
De Pascal, et dès l'Antiquité, avec Platon, il y avait l'âme, la raison et le corps. Et c'est vrai que vous vous inscrivez dans une grande tradition que vous renouvelez.
Tout à fait. Et qui reste tout à fait valable pour moi.
Oui.
Le divin ici n'est pas quelque chose de vague. Le divin est ce qui a présidé à l'avènement de la vie, ce par quoi l'univers est advenu. Quelle que soit votre croyance, l'univers est advenu. Il y a cette force qui a fait que l'univers soit advenu. On peut l'appeler comme on veut. Pour le moment, nommons-le le divin. C'est quelque chose qui dépasse l'homme, en tout cas.
Et après, chacun met un mot différent selon sa culture.
C'est ça. Mais l'homme porte en lui cette part divine. À cause de ces trois composantes de son être, je le répète. Donc, le divin comporte ce que la vie peut aspirer de plus haut. Seul capable de permettre à l'humain de se dépasser et de tendre vers la vraie vie. Qu'est-ce qui adviendra en réalité ? Toute notre expérience vécue sera-t-elle en pure perte ? Ou sera-t-elle reprise autrement ? Nous ne le savons pas au juste, mais notre vision reste ouverte. Keats a dit que la terre est une vallée où poussent les âmes. Nous sommes des êtres qui gardons intacte toute notre soif et notre faim. Nous sommes des candidats à la vraie vie.
Alors, je crois savoir, François Schenk, qu'à partir de la voie taoïste, animée par le souffle-esprit, vous avez aussi épousé ce que vous appelez la voie christique. Pourriez-vous expliquer aux auditeurs ce que vous voulez dire par là ?
La voie christique, bien sûr, comprend toute la vie qu'a vécue le Christ depuis sa naissance jusqu'à sa mort, avec tout un ensemble de paroles et de actes. Mais en même temps, cette idée de voie a été proposée par le Christ lui-même. C'est-à-dire, toute cette expérience et cette proposition est une voie qui continue. Donc, quand je dis épouser la voie christique, c'est d'entrer dans le devenir de cette voie. Et pour moi, dans la voie christique, nos désirs et nos espérances, nos épreuves et nos souffrances ne sont pas seulement des données objectives. Ils sont incarnés et pris en charge. Et ils trouvent leur réponse dans l'amour absolu,
donc en fait,
comme le Christ l'a incarné.
Oui. Vous m'aviez confié un jour que vous ne pouviez pas vous contenter du taoïsme, notamment parce que vous ne pouviez pas demander pardon ou pardonner. Et que la voie christique vous permet ça.
Disons que si on ne croit pas à une transcendance, on ne peut pas pardonner.
François Schenk, toute cette expérience très très riche qui est la vôtre se retrouve dans vos poèmes. Est-ce que vous voulez bien nous en lire un ? Il s'appelle, je crois, celui que vous avez choisi, « La mort n'est point notre issue ».
La mort n'est point notre issue. Car plus grand que nous est notre désir, lequel rejoint celui du commencement, désir de vie. La mort n'est point notre issue, mais elle rend unique tout ici. Ces rosées qui ouvrent les fleurs du jour, ce coup de soleil qui sublime le paysage, cette fulgurance d'un regard croisé et la flamboyance d'un automne tardif. Ce parfum qui nous assaille et qui passe insaisi, ces murmures qui ressuscitent les mots natifs, ces heures irradiées de viva, d'alléluia, ces heures envahies de silence, d'absence, cette soif qui jamais ne sera étanchée, et la faim qui n'a pour terme que l'infini. Fidèle compagne, la mort nous contraint à creuser sans cesse en nous pour y loger songe et mémoire, à toujours creuser en nous le tunnel qui mène à l'air libre. Elle n'est point notre issue. Posant la limite, elle nous signifie l'extrême exigence de la vie, celle qui donne, élève, déborde et dépasse.
C'était À voix nue. Toute cette semaine, François Siri rencontre François Schenk. Attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Laurent César et Stéphane Poitevin, réalisation Anne Sécheret, coordination Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et se podcast pendant un an sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de François Siri avec François Schenk.